Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va bien, par la grâce de Dieu, on vit dans la paix. Et ça c'est important, vivre dans la paix. On va faire une lecture dans Matthieu chapitre 9 et verset 37 s'il vous plaît. C'est Jésus qui parle, disons, à ses disciples. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Jésus, je te prie de nous aider à saisir ce que nous avons à saisir, chacun pour soi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, je te le demande. Amen. Amen. Voilà, dans cette prédication, je vais vous parler un peu d'un cas qui me concerne, et puis de choses qui vous concernent aussi, de choses qui concernent mes frères et sœurs de la communauté. Je vais vous en parler parce que je trouve que quand je vais sur YouTube, je vois tellement de choses bizarres, étranges. Je me dis, mais ça devient quoi le christianisme? Moi, je me suis converti en 1968, je peux vous dire, c'était autre chose. C'était autre chose. Et maintenant, je voudrais qu'on revienne, enfin pour ce qui est de notre communauté, ça va, mais je voudrais que vraiment le Saint-Esprit puisse se saisir de plusieurs hommes de Dieu, de plusieurs femmes de Dieu pour remettre de l'ordre, pour rétablir l'Église, parce que l'Église est vraiment malade. Le Seigneur appelle des ouvriers dignes et bien disposés à travailler dans sa moisson. Il n'appelle pas n'importe qui. C'est merveilleux. Là, je disais tout à l'heure à mon épouse, on était dans la voiture, je disais, dans un mois, je serai en plein séminaire. En effet, je vais pouvoir m'adresser à des centaines de pasteurs pour leur communiquer ce que Jésus a donné à notre petite communauté. C'est vrai qu'on est une petite communauté, mais c'est un petit peu comme Israël qui était un petit pays, mais ce qui était mûri là est allé dans le monde entier. Et nous aussi, au travers d'Internet, on va dans le monde entier. Et non seulement ça, mais même en tête à tête, en public, on tient des réunions. Et là, ça va être très précieux. Ce seront des pasteurs qui seront là. Et bon, ils vont pas tous accrocher avec le message, mais ceux qui vont accrocher avec le message auront une influence bénéfique sur l'assemblée que le Seigneur leur a confiée. Et ça, c'est une belle chose. Alors, comment ça s'est produit, cette affaire, que je puisse aller parler comme ça devant des pasteurs? C'est pas la première fois. Ça fait 16 ans maintenant que je vais en Afrique, et ça, j'ai toujours fait des grandes réunions pour les pasteurs. Et comment ça s'est fait, par exemple, cette fois? C'est pour vous aider à voir, pour vous, pourquoi les choses arrivent, et c'est intéressant. Quand on regarde en arrière, on s'aperçoit que tout n'est que grâce, en fait. C'est Dieu qui a tout fait, qui a tout arrangé. Mais il veut toujours qu'on participe, n'est-ce pas, à son plan. Et il avait préparé ce plan depuis longtemps, mais dans ce plan, il y avait, pour arriver au point où il voulait, c'est-à-dire que je me trouve derrière ce micro avec des centaines de pasteurs que je dois enseigner au sujet des choses que le Seigneur nous a révélées ici, eh bien dans ce plan, il y avait des choses très difficiles. Il y avait par exemple ce fameux cancer qui m'a atteint il y a maintenant 2 ans. Et si j'avais pas eu ce cancer, eh bien je n'aurais jamais rencontré le prophète Lévi, chez qui justement je vais enseigner, parce qu'il n'aurait jamais eu connaissance de mon existence. Dieu lui a parlé, c'est assez amusant de voir comment ça s'est passé, je m'en souviendrai toujours, le 22 janvier 2016, à 17h45, vous voyez que c'est précis dans ma mémoire, hein. Il était en Côte d'Ivoire dans une pastorale, il y avait donc beaucoup beaucoup de monde, et tout à coup il est passé à côté de Nicolas Savadogo qui était en train de me téléphoner, et ce prophète lui dit « Frère, donne-moi ton téléphone, j'ai quelque chose à dire à la personne à l'autre bout du fil. » Alors Nicolas lui a donné mon téléphone. Et il ne savait rien de ma vie, il ne savait rien du tout. Moi, j'étais terriblement affaibli, j'étais dans mon bureau, Il savait rien de ma vie, ni de mes souffrances, et il prend au téléphone, et puis il me dit textuellement, hein, je vois que votre mentor est un très grand serviteur de Dieu, mais il n'est plus. Je le vois à côté de vous. C'est T.L. Osborne. Vous avez un ministère d'évangéliste puissant, et je vous vois actuellement habiter dans une très grande maison, un peu comme un château. À l'époque, on vivait encore au château, il n'y avait pas eu ce scandale diabolique. Nous vivions encore là-bas. Et il dit, je vous vois faire de la musculation, vous soulever des poids. Je vois que votre communauté est petite et qu'il y a des problèmes. Alors ça, oui, il y avait des problèmes. Il y avait... ben bon. Mais il me dit, encore un peu de temps et tout va se régler. Même financièrement, un renouveau financier va arriver. Et je vois que vous êtes malade, mais Jésus vous guérit. Et ne craignez rien, attendez juste un peu de temps. Et puis, il a passé le téléphone à Nicolas. Moi, je me suis mis à pleurer. J'étais très faible. Je me suis mis à pleurer. J'étais bouleversé. Et puis après, tout de suite, quand j'ai eu Nicolas de nouveau au téléphone, j'ai demandé, mais tu lui as parlé de moi? Tu lui as raconté mon histoire? Il me dit, non, 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 vraiment, il sait rien de toi. C'est le Seigneur qui lui a parlé. Alors, après cette conversation téléphonique, le prophète Lévi a demandé à Nicolas qui j'étais, et Nicolas lui a tout raconté, c'est-à-dire toutes nos aventures de foi en Afrique depuis 2000, avec toutes ces missions, toutes ces églises créées, les miracles, les épreuves dans lesquelles je me trouvais dans la communauté à cause de faux frères sorciers. Et 2 mois après cette prophétie, ma guérison a été constatée par les médecins de Chartres. Gloire à Dieu. En février 2017, ce prophète, sachant que j'avais eu le temps de me remettre un petit peu, parce que quand même si vous êtes guéri d'un cancer, vous êtes quand même affaibli, et il m'a laissé un peu de temps pour me refaire. Donc, en février en mai plus exactement, je suis reparti, je suis parti donc en Afrique et j'ai prêché là-bas chez ce prophète Lévi que je rencontrais pour la première fois. Dans son église. Et ça a été puissant, ça a été vraiment, gloire à Dieu, ça a été magnifique. Et là, il y avait un pasteur qui a voulu me connaître, le pasteur Blé. Et donc, le meilleur moyen pour connaître quelqu'un, c'est pas d'écouter prêcher, mais c'est d'aller manger avec lui. Donc, on a mangé 2 fois ensemble, et puis on s'est bien apprécié, à tel point qu'il a voulu me connaître davantage. Il a pris un billet d'avion, il est venu passer quelques jours chez nous dans le sud-ouest. Dans ma communauté, et puis on a bien lié amitié. Et maintenant, ça y est, je suis invité en février-mars pour un séminaire pastoral là-bas, par ces 2 serviteurs de Dieu, pour que j'enseigne donc ce que j'ai reçu de Dieu pour une série d'évangélisations aussi tous les soirs pendant à peu près 15, je pense qu'on va faire une série de 15 réunions d'évangélisation. Donc il va y avoir des conversions, il va y avoir des miracles, il va y avoir des délivrances. Ça va être puissant. C'est pourquoi je vous demande de prier pour moi, de me soutenir dans ma prière et aussi financièrement. Je vous remercie. Au passage, depuis ma dernière prédication, j'ai regardé, ça commence à devenir intéressant et je pense que je pourrais apporter un peu d'argent là-bas. Et je vous remercie. Mais continuez à donner, continuez à semer. Je ne pars que le 20, donc vous avez le temps encore de semer. Mais si vous semez le 19, j'aurai pas le temps de prendre l'argent sur le compte. Donc faites-le tout de suite pour l'œuvre de Dieu. Mais mes frères et sœurs, pour que la volonté de Dieu se fasse puissamment, on a toujours un prix à payer. C'était ça ce que je vous disais au début. Dieu n'envoie pas n'importe qui, il envoie des gens qualifiés. Mais pour avoir les qualités pour pouvoir travailler dans sa vigne, il nous prépare longtemps à l'avance, par toutes sortes d'épreuves, de difficultés. Alors, voilà le genre de missionnaire qu'il envoie. Il n'a pas grand-chose à faire avec des hommes et des femmes qui n'ont pas la révélation pour aujourd'hui et qui prêchent un évangile que tout le monde connaît, quoi, déjà, à part les inconvertis. Évidemment, si c'est de l'évangélisation, c'est bien. Mais il y a une telle souffrance dans les églises. Il y a besoin d'un enseignement au sujet de ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu a à dire aujourd'hui? J'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, les miracles dans mon ministère, ça sert à attirer l'attention sur moi. C'est bizarre, hein? C'est-à-dire que une fois que les gens ont remarqué ce que Dieu fait au travers de moi, je deviens crédible, alors ils m'invitent. Et c'est comme ça que je peux me trouver devant des centaines de pasteurs, voire des milliers des fois, pour pouvoir leur donner le message que Dieu m'a donné. Et là, ça va être absolument magnifique. Bon, certains vont y croire, d'autres n'y croiront pas. Mais ceux qui vont croire ce message que je vais apporter, ils vont marcher dans le rétablissement de toute chose qui est annoncé dans Actes chapitre 3, verset 21. C'est ça qui est important aujourd'hui. Tous les sites que vous voyez au sujet du retour de Jésus, ça vous parle de tremblements de terre, de catastrophes, d'inondations. En ce moment, les alarmistes sont servis, il y a tout ça, des volcans, les catastrophes, la Seine qui déborde, ils sont contents avec ça. Mais ils oublient une chose, c'est que Jésus est gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Acte 3, 21. Il faut donc que ce rétablissement ait lieu, cette guérison pour l'Église, un rétablissement, une guérison pour l'Église, mais pas seulement, aussi le rétablissement, ça veut dire la remise en place des choses qui ont été perdues. Et on a, nous autres chrétiens, à entrer activement dans ce rétablissement pour que Jésus revienne. Si on n'entre pas activement dans ce rétablissement, eh bien, le ciel gardera Jésus encore. Il ne reviendra pas. Il ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toute chose. Donc, si vous voulez racheter le temps, ce qu'il faut, c'est vous mettre dans cette vague d'onction de Dieu qui est en train de rétablir toute chose. Et peu importe le prix que vous aurez à payer, il faut que vous sachiez, ça va vous coûter cher. Mais tant pis. J'ai appris, vous savez, mes frères et sœurs, depuis ma conversion en 68, j'ai appris à renoncer. Première chose, j'ai dû renoncer à plein de copains, de copines. J'étais un peu le chef, je ne sais pas un peu, j'étais le chef du village de Chèvres, là où j'habitais, du haut du village, parce qu'il y avait le haut du village, puis le bas du village, puis on organisait des bagarres. Et j'étais le chef du village, le chef du haut. Donc, tous ces copains, on avait l'habitude de fumer, on buvait, on allait en boîte, tout ça, il a fallu. Bon, alors je disais évangéliser, plusieurs, beaucoup se sont convertis, mais ceux qui ne sont pas convertis, ma foi, j'ai dit, non, il fallait renoncer, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et il y a des choses et des gens et des endroits auxquels il faut renoncer. Je ne me laisse pas influencer par les incrédules. Les incrédules, je les rencontre pour leur parler de Jésus. Mais pas pour être influencé par leur façon de voir, de vivre. Je ne me laisse pas influencer par les faux chrétiens qui viennent me raconter des bobards ou par les sorciers qui rôdent dans les églises. On en a vu, hein, ces gens qui sont possédés de toutes sortes de mauvais esprits. Alors, ne venez pas me dire que ce n'est pas possible que les sorciers aillent dans les églises. Jésus en avait même un, lui, dans son équipe. Judas était un démon, c'est écrit, n'est-ce pas? Donc, si Jésus avait un comme ça, 1 sur 12, vous imaginez un peu dans les églises. En ce moment, ça pullule toute cette sorte de mauvais esprit-là. Et pour ma part, j'ai reçu un message, je le donne, même si parfois, ça demande des renoncements, ça demande, même si des fois c'est dangereux. Je me souviens toujours, j'ai vécu deux coups d'État, plus un troisième coup d'État manqué. Je sais comment c'est, ça peut être dangereux. Alors, ne nous laissons pas avoir par ces choses-là. Toutes ces choses négatives, en fait, elles servent à nous apprendre quelque chose. Il ne faut pas se lasser de faire le bien. Il faut bien faire. Parce que nous avons conscience que nous posons le fondement d'une grande œuvre. C'est depuis des petites choses que Dieu fait des grandes choses. C'est avec ce qui est petit que Dieu fait des grandes choses, afin que personne ne se glorifie. Ce que Jésus exige de nous, c'est un cœur et un esprit bien disposés. Toutes les considérations négatives ne doivent pas nous écarter de la voie de notre devoir. Dieu, il soutient par sa toute-puissance et dote de toutes les qualifications nécessaires, ceux qui lui obéissent. Et le Seigneur a besoin de missionnaires préparés dans le creuset et qui ont un cœur et un esprit donc bien disposés. Le principal, la principale faculté que demande Jésus, c'est que nous soyons fidèles à nos engagements, mes frères et sœurs. D'où vient la capacité de prendre une décision et de s'y tenir? Cela vient longtemps avant l'arrivée du champ de mission. Ça vient longtemps avant toute décision qui pointe son nez à l'horizon. Si vous décidez une chose, vous n'aurez le pouvoir de vous y tenir que si votre caractère a été modelé et formé longtemps à l'avance. En ce moment, dans notre communauté, ici dans le sud-ouest, on a deux frères, Philippe et Stéphane, qui créent une entreprise absolument extraordinaire. On en parlera sur Révélation Bible. Bientôt, on va mettre tout ça en ligne. Et je les vois travailler sans relâche, tous les jours, tous les jours. Alors, dès le matin, de bonne heure, ils prennent juste le temps de manger, et ils retournent à leur boulot. Ça fait des mois qu'ils font ça, tout le temps, tout le temps. Et le soir, hop, ils mangent, et plutôt que de s'affaler dans le canapé du salon pour regarder des infos ou je ne sais quoi, non, ils retournent travailler, préparant la journée de demain. Voilà, ils ont quelque chose à faire, ils le font, ils se sont décidés, ils vont jusqu'au bout, ils tiendront jusqu'au bout, et c'est comme ça, Dieu leur a donné. Mais d'où vient cette force de caractère? Eh bien, elle vient des choses qu'ils ont vécues dans leur passé, des choses qui ont formé leur caractère et leur pouvoir de détermination. Donc, les épreuves que vous passez aujourd'hui, il ne faut pas les éviter, il ne faut pas demander à Dieu « délivre-moi, délivre-moi ». Non, Dieu est en train de vous former un caractère pour que vous puissiez faire les choses qu'il va vous demander plus tard. Parce qu'on est plus que des chrétiens. C'est fini ça. Il faut maintenant comprendre qu'on doit être des disciples. Allez dans toutes les nations et faites des disciples. Laissez-moi vous lire un texte dans Mosias, chapitre 2 et versets 32, 33, puis 36 et 37. Je vous fais la lecture. « Ô mon peuple, prenez garde qu'il ne s'élève des querelles parmi vous. » Et que vous trouviez bon d'obéir à l'esprit malin dont a parlé mon père Mosias. C'est-à-dire que c'était un peuple, et le père avait dit, voilà, il va s'introduire des gens qui vont venir vous donner des conseils, vous dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, mais ils sont inspirés par l'ennemi. Et ça va créer des querelles, ça va créer des divisions. Car voici, il y a une malédiction qui est prononcée contre celui qui trouve bon d'obéir à cet esprit de division. Car il trouve bon de lui obéir et reste et meurt dans ses péchés. Il boit de la damnation pour son âme car il reçoit pour salaire un châtiment éternel ayant transgressé la loi de Dieu à l'encontre de la connaissance qu'il avait. Des gens qui avaient reçu une connaissance. Et ils ont transgressé, n'est-ce pas, ils ont désobéi, ils ont renoncé à ce qu'il leur avait été communiqué comme connaissance. Verset 36, et maintenant je vous dis, mes frères, que si, après avoir connu tout cela, et en avoir été instruit, vous transgressez et allez à l'encontre de ce qui a été dit, vous retirez de l'Esprit du Seigneur. Pour qu'il n'ait pas de place en vous pour vous guider dans les sentiers de la sagesse, pour que vous soyez bénis et rendus prospères et préservés. C'est pas le Saint-Esprit qui vous lâche, c'est vous, par votre transgression, vous, par votre abandon, vous, par votre parjure, vous, par votre négligence. Et il continue, verset 37, je vous dis que l'homme qui fait cela, entre en rébellion ouverte contre Dieu. C'est pourquoi il trouve bon d'obéir à l'esprit malin et devient ennemi de toute justice. C'est pourquoi le Seigneur n'a aucune place pour lui, car il ne demeure pas dans les temples qui ne sont pas saints, ou dans une autre version, dans les temples profanes. Voilà, mes frères et sœurs. Il faut être sérieux, vous voyez. Mosias, il s'adressait à son peuple et lui disait de faire attention aux esprits malins, à ce genre d'esprits qui ont aussi animé Marie et Myriam et Aaron en leur temps. Car, dit-il, il y a une malédiction qui est attachée contre ceux qui trouvent bon d'obéir à cet esprit. Vous allez me dire, oui, mais on est sous la grâce, il n'y a plus de malédiction. Mosias parle à son peuple qui avait été instruit de toutes choses et qui se détournait de ce qui leur avait été donné. Ils n'étaient pas fermes. Ils n'affermissaient pas leur foi parce qu'ils avaient d'autres aspirations. Et le mauvais esprit qui tourne autour des gens dans les églises voit bien quelles sont les motivations des gens et il cherche qui il va pouvoir bouffer. Et quand il trouve quelqu'un qui a des aspirations personnelles, de ceci, de cela, d'être le calife à la place du calife, ou que sais-je, alors il lui tombe dessus, il le séduit, il se fait passer pour un esprit de Dieu, alors que c'est un démon. Vous savez, quand on ne suit pas le Seigneur Jésus dans la voie qu'il nous a ouverte, parce que le Seigneur nous ouvre toujours à chacun une voie, il faut suivre cette voie que Dieu nous a ouverte. Au début, quand on abandonne, quand on ne suit pas le Seigneur, et pendant un certain temps, on trouve bon d'obéir à l'esprit malin. On ne sait même pas que c'est un esprit malin. Mes frères et sœurs, soyez forts. Il vaut mieux s'efforcer de nous abstenir de ces graves transgressions. Pour ceux qui l'ont fait, heureusement il existe une issue, c'est la repentance, mais c'est difficile et douloureux, et ça peut prendre beaucoup de temps. Le repentir, c'est pas un petit truc. On vient pas vers Dieu en disant « Oh Seigneur, j'ai péché, pardon, voilà, puis c'est... » Oui, Dieu pardonne toujours, mais il faut regagner sa confiance. Trahissez-moi, je vais vous pardonner, mais il va falloir regagner ma confiance et ça va prendre du temps. On est tous pareils, n'est-ce pas? Quelqu'un vous fait du mal, vous pardonnez, mais il va falloir qu'il regagne votre confiance. Vous savez, Jésus a absolument horriblement souffert. Et les souffrances que Jésus a eues, il était d'accord de les subir, mais elles étaient extrêmes, intolérables, je dirais même cruelles. Et il a souffert cela afin que nous ne souffrions pas cela. Mais si nous ne sommes pas sérieux avec Dieu, et avec le message qu'il donne aujourd'hui, il nous châtiera. Et il ne va pas nous frapper avec un plumeau de plume. Non. Il dit, repens-toi de peur que je ne te frappe de la verge de ma bouche, de ma colère et de ma fureur. Et souvenez-vous que Dieu a puni Jésus à notre place et que cela a fait saigner Jésus cruellement, ce châtiment l'a torturé corps et esprit, c'était épouvantable, et vous pensez que vous pouvez désobéir à Dieu impunément? Non. S'il ne vous punit pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. C'est ce qui est écrit. Dans la version d'Alfred Kuhn, la parole vivante, c'est écrit que Dieu ne châtie que les siens, il ne châtie pas les bâtards. C'est une version terrible, n'est-ce pas? Parce qu'il ne châtie que ceux qu'il aime. Si vous ne châtiez pas, si vous êtes exemple de châtiment, c'est que vous ne lui appartenez pas. Mais en étant fidèle, vous menez une vie juste. Et vous menez une vie juste pour plusieurs raisons. La première, c'est que lorsque nous menons une vie fidèle à ce que Dieu nous a donné. Et Dieu n'a pas donné la même chose à tout le monde. Dieu n'a pas donné la même chose aux baptistes, aux pentecôtistes, aux protestants, aux catholiques, et tous ces gens sont quand même des chrétiens. Mais il n'a pas donné la même chose à tout le monde. Mais si vous n'êtes pas fidèle dans ce que Dieu vous a donné, c'est grave. Donc la première chose, c'est que lorsqu'on est fidèle, lorsqu'on mène une vie fidèle, dans quoi que ce soit où on est engagé, en tant que disciple de Jésus-Christ, eh bien nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit. Que ce soit pour être missionnaire, comme je vous disais en vous donnant mon exemple tout à l'heure, que ce soit si vous êtes une personne qui aide dans l'intercession, si vous êtes une personne qui aide financièrement un missionnaire, si vous êtes une personne créatrice d'entreprise ou que sais-je, peu importe ce que vous faites, si vous êtes fidèle, si vous êtes tenace dans ce que vous entreprenez et fidèle à faire ce que vous avez commencé de faire, eh bien, la première chose, c'est que vous serez accompagné par le Saint-Esprit. Partout, dans tout ce que vous ferez, là où vous vous serez engagé, vous pourrez être fidèle parce que vous aurez été préparé pour l'être. Les souffrances et les épreuves que vous avez traversées par le passé vous ont formé à être fidèle, à être fort. Maintenant, ceux qui rétrogradent, ils le font soit par manque d'amour, soit par manque de foi. Et c'est pour ça qu'ils sont châtiés, vous voyez. C'est pas tellement le mal qu'ils font qui mérite un châtiment, mais c'est leur manque d'amour et leur manque de foi. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce châtiment n'est pas une fin en soi. Et c'est, en fait, pour un disciple de Jésus, tout doit être fait au nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Alors, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, si vraiment vous êtes un disciple de Jésus, ce que vous faites, vous devez pouvoir le faire au nom de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, elle doit se manifester, ça doit être vu. La puissance du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se manifeste. L'élément essentiel, c'est la présence du Saint-Esprit avec nous qui se manifeste. Alors, si vous êtes dans cette position, Jésus sera votre protection, il sera votre bouclier. On est dans ce monde comme des brebis au milieu des loups, ça on était averti. Mais si nous agissons vraiment au nom de Jésus, accompagnés par la puissance du Saint-Esprit, je repense à mes deux frères là. Mais bien sûr qu'ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire leur affaire. Parce que pour faire des affaires aujourd'hui, c'est très difficile de rester honnête. Si ce n'est pas par la puissance du Saint-Esprit, c'est très difficile. Il y a tellement de trucs, tellement de choses qui sont suggérées pour que on contourne les lois, n'est-ce pas? Non, si vous êtes un disciple de Jésus, vous ne contournez pas les lois. Vous êtes honnête, vous payez ce que vous devez payer. Les impôts, par exemple, les taxes, ces machins. Si nous agissons au nom de Jésus, accompagnés par cette puissance du Saint-Esprit, de sainteté, quoi que ce soit que vous fassiez, cela aura des conséquences éternelles pour vous et aussi pour tous ceux qui vous côtoieront. Alors veillons et prions. Et si vous êtes en ce moment, dans un moment de tourmente, comme je vous ai dit, ne demandez pas à Dieu d'arrêter ça, mais apprenez ce que Dieu veut que vous appreniez au travers de cette tourmente. Apprenez-le vite et la tourmente passera. Et ça vous sera nécessaire plus tard. Ce que vous allez apprendre, ça vous sera nécessaire plus tard. Et ça aidera beaucoup de gens. Ça vous aidera à servir Dieu mieux. Ça vous aidera à servir vos frères et sœurs mieux. Ça vous aidera à servir le monde mieux. Parce qu'on doit servir le monde. Dieu nous a envoyés pour non pas être pour être servis, mais pour servir. Amen. Jésus, je te remercie pour ce message que tu m'as donné. J'espère que mes frères et sœurs ont bien compris et que là où ils sont, ils se mettent devant toi et renouvellent leurs alliances. et se fortifie en toi, Père, dans le nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Allez, au revoir, à bientôt. Au revoir.